Chapitre 4. À quelque temps de là, Madame Renaud donna un bal, raout ou soirée dansante, comme vous voudrez l'appeler. Il y eut d'invités d'abord tous les hôtes de la maison, cela va sans dire, puis Monsieur et Madame Dubois, à la grande satisfaction de Mendès, Mademoiselle Aglaé, à la grande joie d'Alvarez, Monsieur et Madame Lenoir, leurs enfants, leurs parents, leurs cousins, le jeune Ternande, l'ami Morel et encore quantité de bourgeois et de bourgeoises qui contribuèrent plus ou moins à l'embellissement de la soirée et à la consommation des rafraîchissements. De coiffeur, que je préfère écrire coiffeur, trouvant que de cette sorte, ce nom-là, sent bien plus la poudre à poudrer, l'odeur de l'iris et les galantes médisances du temps des pastels et des marquises, le coiffeur donc était venu dès 5 heures, pour coiffer Madame Renaud. Après quoi, il était monté chez Alvarez et Mendès, pour l'embellissement desquels son fer et sa pommade avaient rivalisé l'un et l'autre pendant 2 grandes demi-heures. Et de là, il était passé chez Henri, qui n'avait voulu qu'un pli, une tournure. Le père Renaud avait profité de l'occasion pour qu'on lui coupât les cheveux. Schautschbach lui-même, sentant le besoin d'orner sa tête, s'était fait friser en champignon comme un trouvère ou un garçon de café. Quelle révolution, quel bruit à la cuisine, à l'office, dans le salon, dans les chambres, partout! On avait nettoyé la maison du haut en bas, battu tous les meubles, secoué tous les tapis. On avait loué des lampes chez le lampiste et des domestiques chez le rôtisseur. Le piano était changé de place, les fauteuils n'avaient plus leur couverture. Il y avait des fleurs dans l'escalier, des lampions à la porte. Chaque fois qu'un visiteur s'y arrêtait et qu'on entendait se dépouiller le marchepied, Mendès et Alvarez se précipitaient pour voir les nouveaux arrivants et être là quand ils entreraient. Madame Dubois arriva des premières. Mendès faillit se pâmer quand il la vit ôter sa pelisse sous le vestibule et découvrir ses grasses épaules qui brillaient comme de l'albâtre à côté de sa robe de velours grenat. Le haut en était si serré que la chair rebondissait par-dessus les bords et semblait coupée par l'étoffe. La chère dame portait un large collier de perles et à la main un éventail qui dut lui servir fort à éventer sa face rubiconde. Mais le cœur d'Alvarez ne lui bondit pas moins sous les côtes, quand Madame Aglaé, encore plus légère et plus éthérée que de coutume, avec de la guipure dans les cheveux et de longs gants blancs garnis de peaux de cygne qui lui montaient jusqu'au coude, passant devant lui en rasant le sol, le salua gracieusement, faisant remuer ses papillotes et ses boucles d'oreilles. Son frère la suivait par derrière et portait son châle et son boa. Vers 9 heures, enfin, arriva le reste des conviés, en habit de fête et avec une mine de cérémonie. Les cavaliers prirent la main de leur dame et le bal s'ouvrit. On dansait en marchant en avant, en arrière, les souliers vernis glissaient sur le parquet ciré, les messieurs souriaient, les dames avaient des tenues modestes. L'enfant de Madame Lenoir, toujours habillé en artilleur, avec un shako, un sabre et des éperons, s'endormit sur une banquette. Mademoiselle Clara dansa toute la nuit à côté de son papa. Mademoiselle Hortense, sa grande cousine, une couronne de roses sur la tête et une écharpe bleue sur le cou, se regardait dans une glace en minaudant devant le frère de Mademoiselle Aglaé qui excellait à faire le cavalier seul. Schautschbach resta dans l'antichambre, aidait les domestiques à passer les plateaux de la salle à manger dans le salon. Et debout sur ses talons, Ternande avait le visage de 3/4, de manière à être vu de Madame Lenoir, qui regardait alors Alvarez, lequel contemplait Mademoiselle Aglaé, qui avait un air le plus incompris du monde. Madame Dubois donnait de la langueur à ses petits yeux, et déployait des grâces potelées, inaperçues en partie de Mendès à cause d'un jeune homme placé juste devant lui, qui jouait mélancoliquement avec son lorgnon et regardait au plafond d'un air rêveur pour faire admirer sa tête. Madame Renaud ne dansait pas, elle était un peu fatiguée d'ailleurs, se ménageait pour la valse. Quand elle n'était pas sortie pour aller donner quelques ordres, elle restait assise dans son fauteuil au milieu du petit cercle des intimes, où chacun venait tour à tour lui présenter ses hommages ou faire un bout de causette. C'était dans l'angle du salon, non loin des tables de jeu, placées dans le cabinet de M. Renaud, qu'on avait tout bouleversé pour la fête, car les bustes avaient été ôtés et les cartons serrés dans des armoires. Henri la contemplait dans sa robe jaune à reflets dorés. Elle se tenait calme comme une déesse. Son visage, un peu pâle aux bougies, avait ce jour-là quelque chose d'extraordinaire, une majesté inaccoutumée. Son œil brillait, ses bandeaux luisaient, ses dents éclataient sous ses lèvres. La lumière des lampes traversait la blancheur de son bras nu et coulait comme une onde légère sur le devant de sa peau. Henri s'approcha d'elle et respira l'odeur qui s'échappait de tout son corps. Il se baissa pour lui parler en se penchant sur son épaule, et il se redressa, la joue en feu, échauffée comme par une fournaise. Le punch était excellent, c'était le père Renaud qui l'avait composé. Celui-ci faisait à merveille les honneurs de chez lui. Il se répandait d'un à l'autre, riant, rayonnant, adressait des compliments au beau sexe, donnait des poignées de main aux hommes, bourrait les enfants de gâteaux, versait du vin à profusion et dansait d'une façon grotesque. Dans l'intervalle d'une contredanse, il se mit au piano et tapa sur le clavier avec ses coudes. Cela fit beaucoup rire et il fut content. On s'anima, et les hommes graves eux-mêmes, parmi lesquels il faut compter Ternande, qui, la main dans son gilet et les manchettes de sa chemise relevées jusque par-dessus les parements de son habit, avaient conservé des allures byroniennes à désoler Madame Lenoir. Le cornet à piston souffla de plus belle, le violon racla mieux que jamais, les mains se pressèrent, les regards s'allumèrent. Morel hasarda un pas libre qui eut des imitateurs, et quand arrivèrent 3 heures du matin, les boucles de cheveux étaient défrisées, les bandeaux au moins lisses, les dessous de jupe un peu foulés, et tous les gants salis. Ah, oh, qu'il fait bon valser à cette heure-là, quand les vieilles femmes sont parties, quand on court sur le parquet glissant, entraînant dans ses bras sa danseuse fatiguée, froissant ses dentelles, humant sa chevelure, toujours tournoyant dans les glaces sous le feu des lustres, jusqu'à ce qu'un doux malaise vous gagne à regarder ses yeux constamment briller sous les vôtres, à sentir ce même mouvement régulier vous faire palpiter, d'accord, dans cette atmosphère toute chaude d'émanations féminines et de fleurs fanées. C'est là, souvent, que l'amour commence et que le mal de cœur arrive. Valsez donc, disait tout bas Madame Renaud à Henri. Mais je ne sais pas, lui répondait-il. Mais vous mentez, disait-elle, essayez toujours. Bon, je vous en prie, avec moi, me refuserez-vous? Madame Aglaé jouait une mazurka impétueuse. Ternande enleva Madame Lenoir. Mendès avait déjà saisi Madame Dubois. Le jeune homme au lorgnon avait été agréé par Madame Dubois qui valsait à ravir. Chaque fois qu'elle passait devant Henri, sa robe lui effleurait les jambes, le salon satin soyeux s'accrochait presque au drap de son pantalon et il attendait qu'elle repassât devant lui avec une anxiété infinie. Elle se rassit. Mais est-ce que vous n'essayerez pas? Lui dit-elle. Mais vous savez bien que je ne peux pas. Mais peu qui veut. Oh, il y a encore trop de monde, d'ailleurs. Oh, ce n'est alors que la vanité qui vous en empêche. Oh, je ne vous croyais pas si fat. La vanité, oh non, mais. Ternande vint prendre la main de Madame Renaud et ils partirent ensemble. Cette fois-ci, elle passait plus rapidement encore. Henri, toujours à la même place, debout, adossé à la muraille, la voyait apparaître et disparaître avec une raillerie provocante, le corps cambré en arrière, la tête renversée, la bouche mi-ouverte. La coquette, se disait-il, croit-elle que je l'admire? Et il l'admirait cependant, et la convoitait dans son âme, coupant sa robe de bas en haut et se la figurant nue, toute nue dans cette posture-là. « Vous êtes bien maussade, » dit-elle quand elle se fut rassise à sa place. Et reprenant haleine, « Oh, je suis sûre que si vous vouliez, vous valseriez comme un autre. »« Certes, oui, je regrette de ne pas avoir appris, » répondit Henri, « mais c'est pas avec vous que je veux faire un coup d'essai. » Mais pourquoi pas? Je suis un bon maître, dit-elle. Vrai? Certainement, fit-elle en riant et en le regardant en face. Et il rit aussi, s'apercevant bien néanmoins qu'on se moquait de lui. Oh, pour aujourd'hui, vous allez m'accorder cette faveur, mon cher cœur, dit Monsieur Renaud en s'avançant vers sa femme. Vous êtes trop aimable pour vous refuser, joli cavalier, répondit-elle du même ton. Mademoiselle Hortense entama une valse de Strauss. Ternan partit en avant, Mendès le suivit. Monsieur et Madame Renaud valsaient ensemble. Ils prenaient des poses d'Apollon chinois et se balançaient du côté et d'autre avec un langoureux affecté, et elle riait comme une folle et se laissait traîner par lui. Schauschitzbach était parti se coucher depuis longtemps. Morel s'était esquivé pour aller revêtir son grand costume de général des cannibales et finir sa nuit à l'opéra. On s'en allait, la fête tirait à sa fin. Mademoiselle Aglaé mourait de fatigue sur le bras d'Alvarez. Madès eut à grosses gouttes à force de valser avec Madame Dubois. Mademoiselle Hortense n'avait plus rien à jouer. Monsieur Lenoir avait perdu 50 francs et, craignant d'en perdre plus, avait fort envie de dormir. Mais Monsieur Renaud était intrépide et sa femme toujours charmante. Quelquefois, les valseurs se suivaient, passaient trois dans une pièce voisine et Henri restait seul. Il entendait de là le bruit de leurs pas, leurs rires, leurs cris. Il lui prenait alors d'étranges envies de pleurer. Il avait froid dans les entrailles et tout son être tressaillait de tristesse. Moment terrible dans la vie que ces moments pleins d'orgueil amer, où l'on se sent seul dans ce monde, isolé dans la foule, sombre au milieu de la joie, sevré du bonheur qu'on rêve, et avec le dédain de celui de tous les autres. Quand tout le monde fut parti, il monta dans sa chambre, mais ne se coucha pas. Il ouvrit sa fenêtre et respira. La nuit était douce, il en savoura le silence. L'air frais ranima ses yeux fatigués, rafraîchit son front brûlant. Longtemps il resta ainsi, accoudé sur sa croisée et regardant la nuit. Le jour venait petit à petit, les étoiles blanchissaient au ciel, il pensait malgré lui à tous les sourires, à tous les regards de femmes qui venaient de le quitter, à l'odeur de leurs vêtements, au bruit de la musique qui avait cessé, à l'éclat des lumières maintenant éteintes. Quoique le bal l'eût ennuyé, il le regrettait déjà, et y rêvait comme à une chose ancienne. Le vent frémissait dans les arbres, au loin un coq chantait, et de temps en temps une autre voiture passait dans la rue, ébranlait les pavés, des chiens aboyaient. Les nuages du matin, légers et courant vite, s'en allaient les uns sur les autres en se fondant dans l'air derrière Paris, au-delà d'horizons brumeux. Il faisait froid, le brouillard tombait. Presque endormi par la fatigue et étourdi de mille pensées diverses, fragments d'idées et de souvenirs qui roulaient dans sa tête, plus rapides et plus confus que les feuilles des bois emportées à l'automne dans une même rafale, il revit, comme des ombres évoquées, les différents jours de son passé, les uns gais, les autres tristes, et d'abord ceux où il jouait tout enfant, riant à la vie, sans rêve et sans désir, et celui où il était entré au collège, et cet autre où il en était sorti, celui où il était arrivé chez M. Renault, celui où elle était entrée dans sa chambre et qu'il l'aurait embrassée sous le cou, ceux aussi qu'il passait avec Jules en promenade, marchant bras dessous, quand ils achetaient les cerises et les mangeaient ensemble, assis au bord d'un fossé ou couchés sur l'herbe des prairies à plat ventre. Et puis encore les longues heures ennuyées de la jeunesse, passées le coude sur le pupitre à rêver l'avenir et à s'imaginer des amours futurs. Et les premières allégresses des voluptés charnelles, et les soirs d'hiver chez lui là-bas, quand il travaillait tranquille et sérieux à la lueur calme de son flambeau. Et puis ce jour aux Tuileries, où la neige craquait sous ses pas, et les crépuscules blafards des mauvais jours, quand on voudrait ne plus vivre, que sais-je encore? Il pensa à son premier amour d'enfant et à son amour d'alors qu'il croyait plus sérieux. Il rêva à la voix d'Hollande de la nourrice quand elle chantait auprès de son lit pour l'endormir, à la voix claire, veloutée, vibrante de Madame Renaud quand elle parlait. Il pensa à tout ce qu'on pense, il rêva à tout ce qu'on rêve. Il entendit en bas dans sa chambre la pendule sonner 7 heures. Il referma la fenêtre, s'assit sur une chaise et s'endormit. La chandelle brillait toujours sur la cheminée et se mirait dans la glace. Il arriva le soir chez Borel, crotté jusqu'à l'échine, mouillé jusqu'aux os, la voix émue et la joue pâle. Dès qu'il fut rentré, il se laissa tomber sur un fauteuil, en se prenant la tête dans les mains comme un homme désespéré. « Prenez garde, lui dit Morel, vous chiffonnez la dentelle de ma veste. Oh, mon pauvre Morel, enlevez-vous un peu, vous êtes assis sur mon pantalon. Je suis un homme bien malheureux, continua Henri. Ah, oh, mais où diable ai-je mis mes bottes de maroquin rouge? Répondit Morel. Il prit la pincette et fouilla sous le lit. Si vous saviez ce que j'ai souffert. Ah, voyons, sous la commode, disait Morel en parlant à lui-même. Je suis pourtant rentré avec elle. Si je les avais laissées, je m'en serais bien aperçu, il me semble. Non, non, je n'y tiens plus, s'exclama Henri. Il faut que cela finisse. Ah, les voilà. Avouez que c'était dommage et parfois qu'on en voit un peu de pareil. Figurez-vous, mon vieux, que nous avons fait cette nuit une vie d'enfer. Après le champagne est venu le punch, après le punch nous avons pris du grog, ensuite le kirsch, le rhum, enfin toute la séquelle. Nous avons pris un hareng sort pour faire la digestion et nous nous sommes mis à boire du Bordeaux pendant 2 heures. Avant de nous séparer, on a fait servir à déjeuner. Il a fallu encore manger. C'est moi qui ai le plus bu. Ah, on n'en peut plus. Et il poussa un bâillement homérique, écartant les bras en se faisant craquer les coudes et les poignets. Oh, si vous saviez ce qui m'est arrivé, voyez-vous. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mais nous avons joliment ri. Il y avait à souper une espèce de baron allemand qui était venu avec la petite Irma. Il n'entendait pas un mot de français. Il voulait embrasser toutes les femmes. Il était gris comme un polonais et buvait dans son chapeau. On se moquait de lui sans qu'il s'en aperçût. Alors on lui a fait avaler un tas de choses, du vinaigre, de la moutarde, des radis entiers, comme une pilule. Il avait de quoi crever de rire. Il y avait de bons cigares, par exemple. Est-ce que vous auriez cru ça d'elle, vous qui la connaissez? Mais d'elle, de qui parlez-vous? De Louisa? Oh, ma foi, non, ce pauvre bouchon ne méritait pas ça. J'avoue qu'il est bête, mais après ce qu'il a fait pour elle, Avoir mangé 500 000 francs pour une bécasse semblable et se voir. Oh non, non, non. J'ai trop souffert, murmurait Henri à voix basse. Refusé en plein vol, le bras de ce pauvre garçon, pour celui de ce crétin duc de Noyon, et cela parce que l'autre décline et qu'on va te saisir demain, et passer devant lui en ricanant, mais quelle racaille! Oh, elles sont toutes comme ça, voyez-vous. Oh, bonne fille quand vous êtes riche, mais féroce quand vous n'avez plus le sou. Ainsi, moi, c'est moi qui croyais qu'elle m'aimait, car elle me l'a dit, et si souvent encore. Oh, la grosse Henriette n'est pas comme ça, du moins, voilà une exception. Vous savez bien, la grosse Henriette du Vaudeville. D'Hambourg l'avait quittée pour une Anglaise qui était venue ici l'année dernière avec l'ambassade. Eh bien, quand l'ambassade est repartie, elle est venue tout de suite, comme si de rien n'était. Quoique le père Borissos, gros idiot de banquier de la rue Lafitte, lui offrit de fiers appointements pour rester avec lui. Et que d'Hambourg, après tout, la rosse un peu de temps à autre, quand il a trop bu, ce qui lui arrive tous les jours. Henri ne disait rien et regardait parler Morel d'un air étonné. Et celui-ci continuait. La bonne gueuse que ça fait. J'ai pourtant connu ça dans le quartier latin, traînant dans la savate de l'une chez l'autre, avec son petit bonnet et ses bas bleus. Je la vois encore. L'homme, dans la souffrance, tous ceux qui ne lui parlent pas de sa souffrance parlent une langue étrangère. Les yeux attachés sur un pavé, Henri entendait les mots se suivre sans en chercher le sens. Rêvant à sa douleur. Aussi, avons-nous toujours du plaisir à nous retrouver? Quel crâne cancan nous avons dansé à la fin! On faisait cercle. Elle avait un costume d'Andalouse en délire. Moi, j'avais mon général des cannibales. Dites donc, qu'est-ce que vous pensez de ce plumet-là et de ce pas-là? Un, deux, là en avant. Hop, là, un, deux, là, cac, là. Oui, cria-t-il. Je me suis fait mal au genou. Oh, je viens de m'attraper à ma table. Aussi en y voit goutte. Je venais de me lever quand vous êtes entré et tout est encore fermé. Il fait clair ici comme dans un four ou comme dans une phrase de Sainte-Beuve. Il ouvrit ses rideaux et le jour, entrant tout à coup dans sa chambre, en étala le désordre aux yeux d'Henri. Leçon morale qui ne le frappa point. Tout y était pêle-mêle, bousculé, confondu, et y attestait l'homme qui rentrait trop tard d'un souper où il est resté trop longtemps. Ainsi, une chemise balayait le carreau, un manteau jeté sur la table avait renversé l'encrier, une botte était dans un chapeau, le pantalon sous des chaises, des peignes dans un livre, la cravate dans la cuvette, les gants dans le pot de chambre. Quant à Borel, encore en caleçon, pieds nus, dans de gros chaussons de lisière et couverts d'une vieille redingote de velours qui lui servait de robe de chambre, il avait l'air épuisé de fatigue et bâillait horriblement. L'orgie de la veille avait laissé sur sa figure cette pâleur verte qui n'apparaît que le lendemain comme le remords de la chair elle-même et qui fait ressembler les vivants à des cadavres, la face terne, la peau suante, les yeux éblouis de la lumière du jour. C'était bien là le réveil de l'ivresse, dans toute sa misère, avec sa chaleur aigre et son délire qui tombe. Il s'assit d'un cheval sur une chaise en face d'Henri. Quoi de neuf? Lui demanda-t-il. Mais il y a une heure que je vous parle. De quoi? D'elle. De qui? Mais d'elle, de Madame Renaud. Ah, oh, c'est vrai, à vous donner dans la femme honnête. Eh bien, qu'est-ce que nous en dirons? Savez-vous que son petit bal était assez gentil, les vins étaient bons, les domestiques servaient bien? Et elle, dit Henri, n'est-ce pas qu'elle était bien belle, hein? Gros fan, dit Morel, est-il heureux? Henri sourit et eut envie de ne pas pousser plus loin la confidence, mais il reprit simplement. Oh, pas tant que vous le croyez, peut-être. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas toujours l'amant chéri de cette céleste créature? Comme je me suis fait mal au genou, ajouta-t-il en se frottant la rotule. Imbécile que je suis d'avoir voulu danser. Avez-vous remarqué, dit Henri, quand elle était assise dans le fond, sous ce candélabre de bronze, comme elle se détachait des autres femmes, on lui dit une auréole qui eût éclairé sa figure, n'est-ce pas? Allons, allons, voilà que nous nous allumons encore. Donc vous disiez tout à l'heure, moi je ne disais rien, mais si, quand vous avez dit, pas si heureux que vous le croyez peut-être. Oui, répondit Henri, ramené par-delà de la double beauté de la femme aimée à la haine que donne cet amour. Vous connaissez Ternande? Oh, ce jeune homme qui a une chevelure si fantastique et un habit vert, oh, oui, et après? Savez-vous le nom de cet autre qui remuait son lorgnon? Non, n'importe, continuez. Bien, quand on s'est séparés, à 4 heures, Mademoiselle Aglaé a promis à Madame Renaud de venir lui faire une visite dans l'après-midi. Bon, alors ensuite. Elle y est venue avec son frère, Monsieur Dubois. Bien? Il faisait beau tantôt, vous savez. Oh non, je ne sais pas, je dormais. Allez toujours. N'ont-elles pas eu l'idée de vouloir faire un tour au bois de Boulogne? Eh bien. Mais Ternande, qui venait je ne sais pourquoi voir Monsieur Renaud, a rencontré l'autre dans la rue. Ils sont venus tous les deux. Badès et Alvarez aussi se sont mis de la partie. Il fallait avoir une rage d'équitation, vous avouerez, pour monter à cheval après avoir dansé toute la nuit. D'accord, après. Oh, ben, mon Dieu, que j'ai mal au genou. Mais c'est moi qui ai été averti au manège d'envoyer des chevaux. Alors nous sommes partis de chez M. Renaud en bon ordre, deux à deux. Madame Aglaé marchait en tête à côté de Tornande, Madame Renaud entre moi et le jeune homme. Et qu'est-il arrivé? Parlez! A-t-on tué ces messieurs? A-t-on violé ces dames? Et vous-même êtes-vous tombé dans un puits? Vous êtes-vous noyé dans la rivière, que vous voilà si mouillé? Non, il a plu. Si les autres ont partagé votre sort, non, pas du tout. Et il se mit à lui raconter enfin toutes ses déceptions de la journée. Événement ridicule, événement cruel. D'abord, un de ses sous-pieds s'était cassé et son pantalon lui était remonté jusqu'aux jarrets. Madame Renaud avait ri. Sa cravache s'était brisée et il avait été obligé de suivre les autres par derrière, bien loin. Ternande avait galopé à merveille et sauté une barrière. Elle l'avait admiré. Il avait voulu en faire autant et son cheval était tombé sur les genoux. La fatalité l'avait poursuivi jusqu'au bout. Tout le monde était déjà à Madrid, qu'à peine il s'y s'arrosse était à la porte Chaillot. Là, la pluie avait commencé et jamais dalle ni pavé rincé à grande seau d'eau ne fut plus lavé que lui. Toute la société eut bien du mal à ne pas éclater de rire quand on le vit arriver, ruisselant, lui et sa bête, avec les vêtements collés au corps, les gants d'étain, les bords de son chapeau tombés sur ses yeux. Madame Renaud ne lui dit rien, elle se pinça seulement les lèvres comme les autres. Ternande sifflotait, Manès causait tout bas dans un coin avec Madame Dubois. Et Alvarez et Mademoiselle Aglaé étaient en tête. On lui dit de s'approcher de la cheminée et de se chauffer. Au bout de 3 minutes, il s'en écarta, encore gelé jusque dans les entrailles et avec la mort dans l'âme, mais disant qu'il était déjà séché, que c'était rien, affectant de rire. À demi couché sur un grand canapé, un coussin sous le bras et du bout de sa cravache époussetant le bas de sa robe d'amazone, Madame Renaud dissertait sur les mariages de convenance et les mariages d'inclination, avec le beau dandy assis à ses pieds sur une chaise basse. Elle continua son entretien, jetant à peine un coup d'œil sur Henri et clignant des yeux si fort que les prunelles en étaient cachées et les cils rapprochés les uns contre les autres. Ne sachant que faire, on joua aux cartes, Il n'y joua pas. On s'amusa beaucoup. Il s'ennuya. Comme la pluie tombait toujours, ces dames demandèrent des fiacres pour s'en retourner. On les attendit longtemps, et pendant tout ce temps-là, Madame Renaud, capricieuse et boudeuse, accusa Henri de ce retard. Elle le tourmenta, le tortura, le déchira. Il ne savait ni que dire ni que faire. La rage et l'amour le déchiraient à l'envi. Il eût voulu battre quelqu'un. Il souhaitait des périls subis pour s'y lancer de suite, des sacrifices à accomplir, des choses sublimes à faire pour les humilier tous. Mais il n'arriva à rien d'extraordinaire qui pût le grandir aux yeux de celle qu'il aimait. Et le hasard voulut encore que Mendès, Alvarez, montassent dans la même voiture que lui, étant seuls avec Henri, car Madame Dubois et Mademoiselle Aglaé voulaient rentrer au plus vite chez elles, et Madame Dubois les accompagnait dans l'autre fiacre avec Ternande et l'autre jeune homme toujours assidu auprès d'elle. Ces estimables enfants de la Lusitanie épanchèrent donc dans le sein l'un de l'autre les joies de leur cœur. Ils se frottaient les mains, parlaient vite, soupiraient, gesticulaient, levaient les yeux au ciel et chantaient en souriant. « Elle m'a dit, certes, je me souviendrai de vous longtemps, » disait Alvarez. « Oh, elle m'a dit, comme vous avez les cheveux noirs, » disait Mendès. « Quelle taille, » reprenait Alvarez. « Quelle gorge, » répondait Mendès. « Oh, j'en suis sûr, elle s'est aperçue que je l'aimais. » Mais je suis bête d'hésiter encore, n'ai-je pas senti que pesait son bras sur moi en valsant. Crois-tu que je réussisse, Mendès? Parbleu, et moi, penses-tu que j'ai quelque chance? Sans doute, mais si je lui écrivais, qu'en dis-tu? Bon, je pense, oui, c'est ce que je ferais. As-tu remarqué comme elle m'a dit merci, quand je lui ai tenu l'étrier pour monter à cheval? As-tu bien vu comme elle m'a regardé quand je l'ai salué? Bon, elle reviendra bientôt chez Madame Renaud. Oui, c'est ça, je descendrai dans le salon, nous nourrons encore conversation, je lui glisserai mon billet. Ma foi, non, moi je lui prendrai la taille tout de suite. Oui, c'est décidé, je lui dirai dans l'oreille, je t'adore. Non, puis si elle se fâche, m'en moque, oh, je brusque tout. Le sort l'est jeté, oh, il est tout jeté, c'est sûr, elle m'a compris. À la première occasion, pourtant, si tu penses bien qu'à ma place, n'est-ce pas, il faut pas broncher. Tiens, et moi? Mais toi aussi, bah, pourquoi pas? Eh, vivate, vivate! Et ils se roulaient sur les coussins de la voiture, donnant de grands coups de poing dans les carreaux au risque de les casser. Agacé de leur voix et de leur bruit, Henri s'était fait descendre dans la rue et était accouru chez Morel pour trouver quelqu'un à qui parler et avec qui pleurer. Il lui fallait à toute force un ami, un confident. Son cœur débordait de larmes contenues. Aucun mot de pitié lui rendu heureux, qu'une caresse lui délectait. Le lecteur imagine sans peine qu'il raconta ses chagrins en d'autres termes que nous ne l'avons fait, et qu'il accompagna son récit de force malédiction sur la perfidie des femmes, sur la vanité des hommes, sur la pluie, sur les chevaux, sur les sous-pieds qui se cassent, et sur les serments qu'on fausse. Ben, « il faut l'envoyer promener, » disait Morel. « Mais j'y tiens. »« Ah oui, c'est là le mal. Alors, bon, ben, grondez-la seulement. »« Mais est-ce que je puis la gronder ?»« Ben, il me semble cependant. »« Mais non, mais que voulez-vous que je lui dise ?»« Ben, arrangez-vous comme vous voudrez. »« Hier, » reprenait Henri, en valsant, elle me riait à la figure et semblait me dire « Non, non, jamais !» Elle le regardait avec complaisance, et Ternande aussi, et son mari aussi, pour que rien n'y manquât. Croiriez-vous ? Elle venait près de moi et s'en allait de suite, jouant avec mon cœur comme les enfants avec leurs joujoux qu'ils cassent quand ils n'en veulent plus. Aujourd'hui encore, elle est montée, seule en fiacre avec elle, avec lui, avec tout le monde, si ce n'est avec moi, et ces imbéciles heureux que j'oubliais, qui braillaient en riant dans leur patois. Mon Dieu, mais je la hais, je la déteste, je l'exècre, je ne l'aime plus. Elle peut aimer qui elle veut, tant pis, tant mieux. J'en rirai au contraire. Oh, j'enrage, les gens pleurent. Il pleurait réellement. Mon pauvre Henri, disait Morel presque attristé. Oui, mon pauvre Henri, reprenait-il avec amertume, apitoyé sur lui-même. Un peu d'énergie, voyons, consolez-vous. Mais est-ce que je peux me consoler? Reprenait-il avec colère. Que diable, quand on a une femme depuis 2 mois, comme vous, on a eu assez de plaisir pour avoir un peu de chagrin, surtout quand ce chagrin vient d'un motif pareil. Voyons, qu'est-ce qu'il a? Ne veut-elle plus coucher avec vous? Là, parlons français, corbleu, est-ce ça? Non, répondit Henri embarrassé. Mais alors, pourquoi vous sciez-vous le dos avec vos doléances? Oh, butor, homme sans cœur ni sentiment, pensa Henri. Le petit jeune homme commence un peu à m'ennuyer, pensait Morel. Venez-vous dîner avec moi, ajouta-t-il de suite, et boire un peu de vin généreux pour bannir la mélancolie. Merci. Alors, ce sera pour un autre jour. Sortons-nous ensemble, alors. Oh, je suis pressé, j'ai de la besogne en arrière. Voilà 2 jours que je ne fais rien, et j'ai cette épouvantable mémoire à finir. Tenez, tout ça de paperasse à analyser pour mercredi prochain. Quelle vie que la mienne, quelle galère! Vous êtes heureux, vous? Qu'est-ce que c'est? Demanda Henri. Oh, un mémoire de la Société plâtrière nationale contre la Société plâtrière de Paris. Ce n'est que ça, dit Henri, riant de pitié. Fameuse chose. Fameuse chose, fameuse chose. Certainement, mon petit, fameuse chose. Une faillite de 8 millions. Bon, ça m'intéresse fort peu. C'est possible, mais ça m'intéresse beaucoup, moi. Mon Dieu, que mon genou me fait souffrir. Je vais boiter comme un invalide. J'ai les jarrets rompus. J'ai trop sauté cette nuit. J'ai aussi mal à la gorge. J'ai trop crié à souper. Henri était venu chez Morel pour lui conter sa peine. Et comme elle était vive, il croyait devoir en parler longtemps et que des mots nouveaux viendraient d'eux-mêmes pour exprimer une douleur toute récente. Mais sa parole se tarit vite, et il demeura tout étonné d'avoir si peu de choses à dire. Il se leva donc pour sortir. Adieu, Morel. Adieu, Henri. Bon courage, et soyez plus gaillard une autre fois. Le diable t'emporte, pensait Henri en refermant la porte. Ouvrez donc votre cœur aux hommes et montrez-en les blessures. Ils détourneront la tête avec horreur ou riront de votre faiblesse. Car ils ne souffrent pas, eux. Ils s'occupent d'autre chose. Ah, j'aurais besoin de Jules pour lui dire tout ça. Ce pauvre Jules. Ah, il est bon, celui-là. Mais lui, Morel, quel esprit inepte. Quel cœur étroit. Comme il m'ennuyait avec ses histoires de fillettes et de bals masqués. Comme il criait pour son écorchure. Comme il respectait par avance le sot mémoire qu'il va faire. Sont-ils drôles, tous ces farceurs, avec leurs sentiments? Se disait Morel en descendant son escalier, en se tenant à la rampe de peur de tomber. Oh, voilà, dont je commençais à avoir suffisamment pour ma part. Qu'est-ce que ça me faisait à moi qu'elle eût valsé avec un autre, et puis qu'Alvarez et Manès soient montés dans le même fiacre que lui, et qu'il ait plu cet après-midi pendant que je dormais, et qu'il ait du noir dans l'âme? Rentré chez lui, Henri écrivit à Jules une longue lettre expansive où il lui parlait de sa solitude, de sa misère, de son amour trompé. Que faire désormais dans la vie? À quoi bon continuer à marcher dans cette voie douloureuse où les pieds vous saignent à chaque pas sur les pierres qui la parent? Le présent était triste, l'avenir plus encore. Il voulait mourir. Il l'embrassait et lui disait adieu. 2 grosses larmes tombèrent de ses yeux et mouillèrent le papier. Morel aussi écrivait. Ayant dîné à la hâte, déjà rentré chez lui, il écrivait le mémoire de la Société plâtrière nationale contre la Société plâtrière de Paris. Mais son genou lui faisait toujours beaucoup de mal, et ses plumes étaient toutes détestables. ce qui l'agaçait considérablement. Jules non plus n'était pas heureux. Bernardi était toujours malade, le théâtre chômait depuis 15 jours et la troupe se désorganisait petit à petit. Le jeune premier était même allé jouer dans un département voisin avec une partie des décors et des costumes. Tout cela retardait la représentation du chevalier de Calatrava, dont Jules n'avait pu encore faire la lecture de ce cinquième acte, ce fameux cinquième acte qui devait lui rapporter tant de gloire. On lui dit que Bernardi avait juré de ne pas l'entendre. Un jour, il avait mal à la tête. Le lendemain, il faisait des comptes. Un autre, il était trop occupé. Un autre, il se purgeait. En vain, chaque matin, avant d'aller à son bureau, Jules venait lui faire une petite visite pour avoir des nouvelles de sa santé, disait-il, mais pour tâcher incidemment de ramener dans la conversation la lecture susdite. Déception quotidienne. Le directeur semblait sourd et répondait en parlant d'autre chose. S'il eût voulu cependant, comme cela eût été vite fait, Jules avait son manuscrit tout prêt dans sa poche. Il en eût tiré à l'instant même, et la pudeur lui retenait la langue, quelque envie cependant qu'il avait d'être compris. Il sentait bien néanmoins qu'il s'humiliait à courtiser cet homme, lui si fier et si noble, et il en rougissait de honte vis-à-vis de lui-même. Chaque matin, pourtant, ses pieds le traînaient d'eux-mêmes à l'auberge du Lion d'Or. Dans l'illusion de sa vanité, il croyait presque aimer Bernardi et qu'une sympathie réelle l'attirait vers lui. Tous les grands hommes, d'ailleurs, n'ont-ils pas été ainsi, d'abord empêchés par mille obstacles, niés, injuriés, abreuvés d'outrage? Une partie de leur génie n'a-t-elle pas été leur malheur? Voilà ce qu'il se disait pour se consoler, et ce qui le consolait peut-être. On savait dans sa ville qu'il fréquentait les comédiens et qu'il voulait leur faire jouer quelque chose. Cela faisait événement. On en causait beaucoup. Les gens qu'il voyait tous les jours étaient étonnés, demeuraient ébahis. On le blâmait généralement, et ses anciens camarades assuraient qu'il serait sifflé. Il n'y avait guère que les petites gens qui l'approuvassent et qui eussent voulu être à sa place pour aller gratis au spectacle et entrer dans les coulisses. Sa mère redoutait pour lui le danger des mauvaises sociétés, et son père l'avait averti de prendre garde aux amourettes et de veiller à sa bourse. Le dimanche, dans les grands dîners de famille, dans ces bons vieux dîners de bourgeois que tout homme en naissant est appelé à subir, comme le service militaire et les impôts, les hommes de 50 à 60 ans, les hommes établis, mariés, propriétaires et contents du gouvernement, se moquaient tous de ses prétentions littéraires et le raillaient finement en lui donnant des conseils. « Mais où ça vous mènera-t-il? Faites comme tout le monde, croyez-moi. Quelle idée avez-vous eue là? Oh, vous en serez bien avancé. Mais c'est une folie! Bon, ça se passera, je vous assure. » Puis venaient les anecdotes, les exemples, les preuves, et il était décidé qu'il avait tort. Mais la comparaison qu'il faisait de leur bêtise à lui-même l'affermissait davantage dans le sentiment de sa force. Assis sur son orgueil comme sur un trône, il n'en vivait que plus calme. Il y avait à côté du théâtre une allée de tilleuls qui s'étendait le long de la rivière. C'était là, le soir, dans l'été, que les dames du pays venaient prendre le frais, les vieilles avec leurs carlins, les autres avec leurs maris et leurs enfants. Quoique la saison ne fût pas encore chaude, Mademoiselle Lucane s'y promenait tous les soirs, accompagnée de Madame Artémise, qui paraissait être sa mère, car elle la suivait partout, comme son ombre ou son cornac. Une fois, en passant par là, Jules les aperçut, il les salua et continua son chemin, sans détourner la tête pour les regarder ensuite, comme cela se pratique tous les jours dans les rues. Le lendemain, à la même heure, il y passa encore. Elles étaient à la même place, assises sur le même banc. Il marchait plus vite que la veille. Madame Artémise le salua par son nom et le fit asseoir à côté d'elle. C'était une femme mielleuse et caressante, pleine de politesse pour les jeunes gens, et disant volontiers de ces choses agréables qui font rougir. Elle lui causa beaucoup de son drame, du succès qu'il aurait, des acteurs qui le joueraient, de l'effet qu'il produirait, et l'on se sépara gracieusement en se promettant de se revoir le lendemain, et ainsi les jours suivants. Chaque soir, en arrivant sous les arbres, Jules trouvait les deux femmes se promenant ensemble au bord de la rivière, ou bien assis sur un banc à regarder l'eau couler. Mademoiselle Lucinde parlait peu, elle regardait habituellement le ciel et demandait à Jules le nom des étoiles, le plus souvent. La tête baissée, elle jouait avec son pied dans l'herbe, souriant seulement à ce qu'il se disait. C'était bien pour elle, pour contempler ses yeux levés en l'air, pour jouir du plaisir de la voir, qu'il endurait les interminables bavardages de sa compagne, ses questions oiseuses, ses compliments outrés. Pendant que vous étiez à lire un livre aimé, savourant chaque mot, dégustant chaque phrase, et la retournant dans votre tête comme on retourne sur la langue un fruit juteux, entrant alors dans la pensée de l'auteur et rêvant aux horizons qu'elle vous découvre, il vous est arrivé sans doute de bondir de douleur au son d'un orgue de barbarie qui entamait sa romance, au cri de la porte qui s'ouvrait et laissait entrer une visite importune. Eh bien, Jules se soumettait chaque jour à cet ennui, plus cruel encore en ce qu'il était prévu, pour lire sur le visage de la jeune fille un vague cantique écrit nulle part, pour se repaître à loisir de cette poésie nouvelle qui se révélait à lui jusque dans le souille de ses narines et les plis de son vêtement. Il s'était fait l'ami et presque l'amant de la duègne aux dents gâtées et à la voix rauque pour laquelle il avait conçu dès l'abord une aversion profonde. Lucinde, en effet, l'appelait malgré lui. Il sortait de la beauté de cette femme quelque chose d'attractif qui faisait venir à elle. Rien de plus doux que son visage, rien de plus simple que son maintien, et pourtant toute sa personne troublait. De suite, on se sentait disposé à l'adorer, à mourir pour elle. Puis, tout à coup, le cœur se révoltait, on se mettait à la haïr sans cause. Ses longs cheveux châtains, où la lumière traçait des filons d'or, abondants et soyeux, si fournis que sa tête en semblait lourde, roulés en torsade derrière sa nuque, tombaient presque sur ses épaules. Séparés sur le devant en longues papillotes mobiles, ils voltigeaient toujours, suivant que le vent soufflait, qu'elle marchait ou se levait, et lui caressait la figure. Elle avait naturellement des poses abandonnées, pleines de candeur ou de recherche, et elle marchait légèrement comme ces oiseaux qui pourraient voler s'ils le voulaient. Une ironie peut-être cruelle palpitait sur sa lèvre mince, au contour de sa bouche discrète. Ses yeux, relevés vers ses tempes, humides et toujours glissants sous les paupières comme dans les extases lascives, avaient par surcroît d'attrait une gaieté sereine, une sorte de naïveté enfantine. Vaguement, d'elle, faisait penser à cette race de filles d'Ève venues pour perdre les hommes, à ces femmes magiques qui se jouent avec les serpents, s'enlacent le corps dans leurs anneaux et les apaisent en leur parlant, à ces maîtresses de rois qui causent les calamités publiques, créatures perfides et toujours aimées qui vous trahissent dans un baiser, vous vendent pour des bijoux et vous offrent le poison tout en riant au milieu de la fête en se jouant sur vos genoux. Était-ce à cause de cela que Jules n'osait presque lui parler, qu'il eut eu peur de rester seul avec elle, qu'il baissait les yeux pour qu'à la voir de loin? Était-ce respect, contemplation ou terreur? Et d'abord, l'aimait-il? Il en douta lui-même plus tard, il est vrai, quand après avoir vécu longtemps d'une vie toute idéale et imaginaire, au milieu d'amours célestes et de sentiments impossibles, il arriva à nier la beauté pour l'avoir trop aimée, et à rire de toutes les passions à force de les avoir étudiées. Mais alors il était encore dans le sérieux de l'illusion et de la vie, sans vouloir mesurer son amour à l'échelle de l'infini. Manie funeste, qui dégoûte des grandes choses et rend vieux de bonheur. Mais pourquoi ne l'eût-il pas aimé? Tout homme commence la vie du cœur par un amour sérieux. Alors il fit donc comme tout le monde. C'était d'ailleurs à cette époque un enfant crédule et sans défiance. Aimant à aimer, voulant rêver de beaux rêves, facile à l'enthousiasme, admirant ce qu'on admire et plus encore, il était de ces gens candides et tendres qui n'oseraient réveiller un enfant endormi ni écraser des fleurs sous leurs pieds, qui caressent les animaux, qui se plaisent à voir voler les hirondelles, qui passent des nuits à regarder la lune. Nature nerveuse et féminine, son cœur se déchirait à tout, s'accrochait à tout. Il était joyeux sans cause, triste sans raison, rêveur à propos de n'importe quoi. Il avait de grandes haines pour des misères et du fanatisme pour certains maux. Il désirait ardemment des choses médiocres, regrettait des futilités et se mettait de nouveau à adorer des niaiseries. La force d'expansion que le ciel lui avait donnée augmentait l'intensité de ses joies ou de ses douleurs. Il s'exaltait en écrivant, devenait éloquent à force de parler, s'attendrissait lui-même et s'aimait parce qu'il se sentait bon. Il considérait la rhétorique comme une chose grave. Quand il faisait du style, l'hyperbole l'emportait au-delà de sa pensée et il employait des expressions magnifiques pour des sujets assez pauvres. Sa vie jusqu'à présent avait été une vie plate et uniforme, resserrée dans des limites précises, et il se croyait de pouvoir quelque large existence, toute remplie d'aventures et de hasards imprévus, pour les combats, pour la mer, pour des voyages perdus, pour des courses énormes à travers le monde. Ce qui le rendait à plaindre, c'est qu'il ne savait pas bien distinguer ce qui est de ce qui devrait être. Il souffrait toujours de quelque chose qui lui manquait. Il attendait sans cesse je ne sais quoi, qui n'arrivait jamais. Quelque ressemblance qu'il y eut entre Henri et lui, c'étaient deux hommes fort distincts. Henri était plus libre, plus léger, plus net dans ses allures. Jules était toujours gêné, comme quelqu'un qui étouffe. Il était plus exagéré, plus entêté et plus absurde. Seulement, il avait une disposition naturelle à rire de lui-même quand il se regardait à froid, qui était bien loin de la chaleureuse ténacité d'Henri. Celui-ci avait plus de vanité et moins d'orgueil. Il comprenait moins bien l'ironie et se serait plus choqué que l'autre si l'on eût fait sa caricature. Les poiriers étaient en fleurs, les marguerites et les primevères se montraient déjà sous l'herbe, quand Henri revint chez lui aux vacances de Pâques. Avec quelle joie il embrassa sa mère, avec quel plaisir il revit la maison, quel flux de paroles avec Jules surtout. Dès le matin, ils allaient ensemble se promener dans la campagne, ils marchaient dans des sentiers qui tournent entre des cours plantés d'arbres. Arrivés sur la côte, ils s'asseyaient par terre, allumaient leurs cigares et restaient là, à causer, jusqu'à l'heure du déjeuner. Il y a une grande douceur à revoir à deux les lieux où l'on a vécu ensemble, à redescendre pas à pas et se tenant par la main dans les heures d'autrefois. C'est recommencer la vie dans ce qu'elle a de meilleur. Ils parlèrent bien de leur passé, mais ils n'y trouvèrent pas autant de charme que s'ils eussent été plus vieux. La vie est comme tout tableau. Pour sembler belle, elle a besoin d'être vue à distance. Dans l'isolement où il vivait, Jules se délecta de revoir son ami. Il aimait en effet de toute son âme, plus que lui-même, autant que ses chefs-d'œuvre futurs. Henri était le seul homme qui le comprit quand il parlait. Il avait toujours l'intelligence prête pour recevoir ses idées, l'oreille ouverte pour accepter ses confidences. Henri, de son côté, ne goûta peut-être pas tout le plaisir qu'il s'était promis en revenant chez lui. Il pensait à Paris et à Madame Renaud. Dès le lendemain de son arrivée, il s'ennuya. Il trouva cependant la nourriture excellente et le goût de Chambertin toujours agréable. On venait le voir le soir après dîner pour savoir s'il était changé et pour causer avec lui des plaisirs de la capitale. Les dames lui parlaient de l'opéra et de la richesse des boutiques, et les vieux célibataires du café des mille colonnes et des charmes de Mademoiselle Mars. Puis il le prenait à part dans un coin et lui demandait confidentiellement le nombre de ses maîtresses et toutes les fredaines qu'il avait faites et tous les maris qu'il avait désolés. Puis il ne mentit pas trop et garda un juste équilibre entre la vérité et le respect humain. Néanmoins, il prenait parfois des façons de grand seigneur ennuyé qui déplaisaient fort. On trouvait aussi qu'il avait l'air usé, résultat probable de ses excès, et les braves gens qui s'imaginent que Paris est un lieu de délices où l'on mène naturellement une existence remplie de filets de chevreuil sautés au madère et de princesses étrangères qui vous comblent de présents, se regardaient d'un air discret et disaient entre eux « C'est Paris où il y a tant d'occasions qu'il a rendu comme ça ?» Oh, tous ces jeunes gens s'y ruinent la santé. Oh, j'y en ferai pas Charles de sitôt. » Henri, qui ne voulait pas trop se perdre de réputation dans son pays et qui tenait à l'estime du public, souriait à tout cela d'un air modeste, acceptant toutefois au moins la moitié de l'admiration des sots et le blâme des niais. Jules lui-même eut du mal à le croire quand il sut ce qui en était. Ça dérangeait les idées qu'il s'était faites d'avance. Henri lui disait qu'il ne voulait pas d'un amour charnel, qu'il lui fallait autre chose. Et il lui faisait de Madame Renaud des descriptions charmantes, sans ajouter qu'elle avait peut-être un peu trop d'embonpoint, ni que dans l'hiver, le froid lui rendait le bout du nez rouge et les joues toutes plaquées. Il ne lui dit pas non plus tout ce qu'il avait débité à Morel avec tant de chaleur, le jour funèbre qu'il était venu chez lui et que Madame Renaud avait été si cruelle. Il lui avoua cependant une partie de ses ennuis, mais vaguement, sans préciser les faits, grandissant les petites choses et poétisant les vulgaires, embellissant un peu l'histoire pour faire plus d'effet. Il aimait à parler de son amour avec Jules, et Jules, à son tour, lui parlait de son drame et de Mademoiselle Le Sinde. C'était un échange de sentiments où chacun, en recevant ce qu'on déversait dans son cœur, retrouvait les siens propres. Quoique Henri, déjà plus au fait de la vie, sente moins que Jules ces bouillonnements généreux où l'on voudrait que tout votre être passât dans la personne que vous aimez, il était encore jeune et propre comme lui à ses espérances communes, que l'on se forme à deux, ainsi que ses couronnes de jasmin ou de lilas, que les enfants tressent ensemble. Le cœur est comme la main, d'abord tendre, rose, délicat, puis moins faible, mais faible encore, agile, souple et propre à tout, au jeu et à l'étude. Mais vite la peau se couvre de poils et les ongles durcissent. Ils se courbent tous deux selon leur travail ou leur passion. Ils ont leurs plis et accomplissent leurs tâches. La main pétrit le pain ou brandit l'épée. Dans ce cœur, l'envie se distille et l'ambition fermente. Puis ils se resserrent, ils se cassent, ils se ferment. L'une se dessèche et l'autre s'éteint. Leur âge était celui où la main tremble en passant sur des tissus soyeux, où le cœur tressaille en contemplant des voix douces demandées dans la nuit. Es-tu là, est-ce toi ? Jules disait : Oh, quand Bernardi sera rétabli, on joue mon drame. Allez, tu reviens pour la première représentation. Il est applaudi à outrance. Je pars d'ici, je vais avec Lucinde. Oh, nous vivons ensemble. Elle joue, moi composant. Tu sais comme la réputation arrive vite. Oh, j'en aurai. Va, oh, je serai riche, je voyagerai. J'aurai une vie d'amour et de poésie, une vie d'artiste. J'irai avec elle en Espagne, en Italie, en Grèce. Je veux voir avec elle briller les étoiles sur une mer bleue, respirant l'odeur des orangers et touchant à sa chevelure. N'espère pas tant, répondait Henri, qui lui-même s'arrangeait une existence tout aussi belle, rêvait au baiser de celle qu'il aimait et se figurait de longs jours délicieux. Peut-être ne précisait-il pas autant que Jules tous les contours de son avenir, mais comme lui, il l'avait bâti dans son cœur et l'adorait aussi comme une idole. Malgré ses hésitations récentes, il avait la conscience d'un bonheur prochain. Il le sentait poindre lui-même et s'en émouvait déjà comme d'une autre virilité naissante. « Tu le verras, » disait-il à Jules. Tu la verras, et tu me diras ensuite s'il y a beaucoup de femmes pareilles. Elle a une même exquise. Elle adore les fleurs et la musique. Nous lisons des vers ensemble, elle les comprend comme un ange. Lucinde avait pour Jules les mêmes qualités, et de plus, comme elle était jeune fille et partant vierge, il la dégageait de toute la matérialité de la vie, sans lui supposer ni boyau dans le ventre ni corps aux pieds, et la posait au septième ciel sur des nuages frangés d'or. Henri, plus dans le vrai et moins soumis au subjectif, comme diraient les philosophes, aimait Madame Renaud telle qu'elle était, avec son entourage de chaque jour, le milieu où elle vivait, avec tout son corps et toute son âme, avec tous ses caprices et ses dédains. C'était tout cela qui la constituait, qui la faisait telle qu'elle était, qui la distinguait des autres femmes. C'était pour tout cela qu'il l'aimait. « Tiens, la voilà, à gauche. C'est elle, » dit Jules au bras d'Henri, un jour qu'il passait sur le pont au pied du calvaire qui est là. Mademoiselle Lucinde et Madame Artémise s'avançait devant eux. « Qu'en dis-tu » ajouta-t-il quand elles furent passées. « L'as-tu bien vue ?»« Oui, eh bien, elle est pas mal. »« Ah oh ben, je le crois, » dit Jules en riant. « Il me semble qu'elle a les yeux petits, » reprit Henri. « Allons donc, elle les a très grands, au contraire. C'est qu'elle les baissait. » « Mais as-tu remarqué sa taille ?»« Non. Et ses cheveux surtout. Mais comment veux-tu ?»« Oh, il faut la voir de près. C'est quand on lui parle qu'elle est belle. Tout son visage alors s'éclaire et sourit. » Il eût voulu qu'Henri, s'associant de suite à son admiration, en détailla comme lui toutes les causes, ainsi que par un beau clair de lune, on souffre à voir quelqu'un qui ne vous dit répond rien quand vous lui dites « Vois donc ces perles d'or qui roulent dans le fleuve et ce brouillard d'argent qui estompe les collines. Comme les étoiles brillent, comme les rayons doux, entends-tu le rossignol ?» De même, pour son drame, Henri l'avait bien écouté et approuvé, mais il avait laissé mille endroits sans rien dire. Il lui fallut d'abord discuter le plan, puis commenter chaque scène, critiquer le style en détail et l'approuver dans son ensemble. Il n'avait pas fait assez de remarques, il en avait trop peu causé, il n'y revenait pas sans cesse, comme l'eût désiré l'auteur. Il n'était pas tout à fait du même avis sur la littérature. Jules avait gardé ses vieilles admirations d'autrefois. Henri, qui lisait plus de journaux, en avait renié plusieurs et modifié quelques-unes. Il était moins passionné pour les grands poètes et plus indifférent pour les mauvais. Du reste, il s'était peu occupé d'art à Paris. Jules ne comprenait pas qu'il ne fût pas allé plus souvent au spectacle et qu'il n'eût pas tâché de se lier avec toutes les célébrités de l'époque. Il ne montrait pas non plus cette préoccupation exclusive du beau, qui ne voit dans le monde que des sujets de drame, des antithèses fécondes et des couchers de soleil. Madame Artémise, qui chérissait M. Jules et qui était toute disposée en sa faveur, lui envoya un matin une épître assez salement pliée, cachetée à coups d'épingle, comme celle que les tourlourous adressent à leur payse, et toute remplie d'excentricités d'orthographe, à travers lesquelles se révélait la demande, fort claire néanmoins, de la somme de 100 francs. Elle en avait un besoin pressant, et les lui rendrait dans 15 jours, suivant la formule ordinaire. Il fallait donc trouver 100 francs n'importe où, n'importe à qui, n'importe comment. Il le fallait. Si le désir pouvait faire suer l'argent des murs ou se tirer des entrailles de la terre, le lambris dut ruisseler de louis, le sol se fit entr'ouvert et lui eut envoyé une bouffée d'or. C'est alors, dans ces ardentes convoitises, où l'on trépigne de rage, qu'on rêve le diable et qu'on serait tenté d'y croire pour pouvoir l'appeler à son aise. En demander à son père, mais il raillera. Il plaisantera, il refusera peut-être. À sa mère, ce sera pire encore. À son camarade de bureau. Mais celui-ci lui avait déjà prêté 50 francs pour pouvoir fréquenter Bernardi et faire bonne figure au café. À peine il savait comment les lui rendre. Alors à qui donc? À personne. À vendre, mais quoi? Jouer, joue-t-on en province. Et puis il lui en fallait de suite, à l'instant. Ce devait être déjà fait. N'était-ce pas à moi de la prévenir, se disait-il. Oh, je devrais être chez elle. Elle m'attend. J'ai l'air d'un homme qui réfléchit, qui hésite, qui a peur. Ou bien d'un pauvre qui se cache. Oh, moi qui l'aime tant. Mais que l'a-t-elle besoin de mon sang? Oh, je lui verserai à profusion. Si j'étais riche, l'argent, l'argent. Moi qui voulais la faire vivre dans le luxe, la rendre fière de moi. Et ne pas avoir 100 francs. 100 francs, 20 pièces de 100 sous. Oh, je ne la reverrai plus. Comme elle me méprisera et me dédaignera. Comme j'ai l'air petit, infime et bas. Oh, je les aurai, je les aurai, cria-t-il tout à coup. Car un éclair lui avait traversé l'esprit. Il avait pensé à Henri. Henri qui devait partir le soir à Paris et qui pouvait demander de l'argent à ses parents et lui en donner. Il vola chez lui. Entre jeunes gens, ces douleurs-là se comprennent. Henri avait déjà reçu son trimestre. Il ouvrit son sac et Jules y plongea les mains. Il était à peine 10 heures du matin, mais on le reçut tout de même. Madame Artémis s'habillait devant une glace, et Mademoiselle Lucinde, encore couchée en robe de nuit, se jouait avec un épagneul noir que Jules lui avait donné. Elle avait à côté d'elle un paquet de biscuits et un pot de confiture. Elle prenait les biscuits l'un après l'autre, les couvrait de confiture et les donnait à manger aux chiens, qui passaient sa langue sur ses babines et battaient les couvertures avec sa queue. Quand son ancien maître entra dans la chambre, il sauta à sa rencontre, mais Lucinde l'appela de suite et il bondit sur le lit et alla se coucher sur les genoux de sa jeune maîtresse. C'était un épagneul noir avec une tache blanche sur le dos. Jules l'avait depuis 3 ans. Mademoiselle Lucinde l'avait vu un soir et l'avait trouvé joli. Jules lui avait donné. La chemise de nuit qui l'entourait était plissée en long et bouffait un peu autour d'elle. Elle cachait la torsion de son corps, étendue sur le côté, les talons aux jarrets et la poitrine en avant. Son corset et sa jupe étaient accrochés à la patère d'une fenêtre, le lacet pendant jusqu'à terre. Jules s'y prit les pieds et faillit tomber. Pendant toute la visite, Mademoiselle Lucinde parla plus que d'habitude et avec une sorte d'intimité, d'abandon. Jules se sentit plus à l'aise, plus libre de ses mouvements, plus spirituel et plus gracieux. En se séparant des deux actrices, il leur fit même un salut qu'il jugea d'une distinction charmante. C'est qu'à son insu, il avait le bel aplomb de l'homme qui paye et qui est convaincu qu'on l'estime. Cet aplomb-là n'a pas son pareil dans le monde. Rien ne le vaut et rien n'en approche. De deux hommes qui dînent ensemble au restaurant, c'est celui qui paye qui s'assied le plus lourdement sur sa chaise, qui en fait craquer le dossier, qui appelle le garçon de la voix la plus haute et s'emporte à cause du canard trop cuit et de la friture manquée. Dans un débit de tabac, c'est celui qui paye qui choisit le plus longuement le cigare convenable et qui repousse la boîte avec le plus de violence en se payant amèrement du monopole. L'ami qu'on régale se contente de rire et allume ce qu'on lui a donné. Chez une femme de mœurs facile, c'est encore celui qui paye qui essuie ses bottes sur les coussins du sofa, qui lâche ses bretelles et déboutonne son gilet pour être plus à l'aise, qui prend la taille de la femme de chambre devant la maîtresse de la maison, mâchant son cure-dent, riant à ses propres bons mots et débitant des ordures. Vive l'homme qui paye! Son insolence est justifiée par la vénalité de ce qu'on achète et sa confiance en lui-même par l'empressement qu'on met à tout lui vendre. Honneur à lui, gloire à lui. Chapeau bas, messieurs, c'est notre maître à tous. Jules sentait le besoin de donner encore quelque chose. Il voulait que Lucinde eût de lui un objet quelconque, qu'elle pût emporter avec elle, qui lui servît tous les jours et qu'elle aimât. Il pensa donc à un sachet pour mettre des mouchoirs. Il le voulut en satin blanc, brodé de fleurs roses et bleues, parfumé d'iris, avec de longs rubans doux et délicats, frais et le plus joli du monde. Il chargea Henri de cette commission, la lui expliqua longuement avec mille détails, et l'avertit encore 100 fois de ne pas l'oublier. Henri s'embarqua le soir pour Paris. Sa mère vint le reconduire jusqu'à la diligence, avec sa vieille bonne qui portait son manteau et son sac de nuit. Deux ou trois amis de la famille vinrent aussi l'embrasser avant de monter en voiture. Jules était là et lui parlait encore du sachet. « Tu auras le soin de le commander de suite, tel que je te l'ai dit. Elle le veut comme ça, entends-tu? N'oublie pas. » Un commis, une plume sur l'oreille et un papier à la main, fit l'appel de messieurs les voyageurs. Henri embrassa toute la compagnie et sa mère une troisième fois encore. Il prit sa place dans le coupé en fermant la portière. Il passa la main par la portière et donna une dernière poignée de main à tout le monde. Jules monta sur le marchepied. « Aie soin de le faire piquer en dedans, lui dit-il dans l'oreille. Le fouet retentit. La machine s'ébranla et se mit à rouler. Tous les gens venus pour faire la conduite à quelqu'un prirent chacun leur chemin et s'en allèrent.